Bon, on va commencer notre 50e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, nous allons examiner très, très brièvement le christianisme, comment ça s'est établi en Amérique du Nord. Alors, jusqu'ici, on avait étudié l'histoire de l'Église, surtout au Moyen-Orient et aussi en Europe. Cependant, le christianisme ne tarda pas à venir s'installer en Amérique du Nord. Alors, une des choses qui est à considérer quand on regarde l'histoire du développement du christianisme en Amérique du Nord, c'est vraiment le fait qu'à la fin du 15e siècle, le pape avait servi d'arbitre entre l'Espagne et le Portugal. Quand on regarde aujourd'hui la division de l'Amérique du Sud, là, il avait comme tracé comme une ligne imaginaire à cause du fait qu'il y avait comme une chicane entre le roi du Portugal et le roi d'Espagne, et l'Amérique du Sud avait été comme tranchée en deux par une ligne imaginaire, mais c'était le pape qui avait fait ça de manière... Alors, si tu regardes souvent, les pays en Amérique du Sud vont correspondre un petit peu à cette division-là qui avait été établie dès le 15e siècle à cause des guerres qu'il y avait eu entre les rois d'Espagne et du Portugal. Alors, c'était des possessions territoriales et, bien entendu, ils cherchaient à avoir un arbitre dans leur affaire et c'était le pape qui jouait ce rôle-là. Alors, ces deux pays-là étaient présents en Amérique du Sud, en Amérique centrale et aussi au Mexique. Alors, le pape Alexandre VI émit une bulle pour diviser les territoires selon une ligne imaginaire. En 1565, les Espagnols fondèrent Saint-Augustin en Floride. Ils expulsèrent les protestants français établis là pour jouir de leur liberté religieuse. Ils en massacrèrent 141 en les pendant avec l'inscription « pendu non comme français, mais comme hérétique ». Alors, j'avais suivi un cours récemment et justement, le professeur nous faisait remarquer que si quelqu'un veut comprendre un peu l'histoire de l'Amérique du Sud, il fallait que tu comprennes cette histoire-là qui datait de si longtemps que ça, la division entre le Portugal et toutes les guerres qu'il y a eu. Et il dit, si tu arrives dans un pays comme ça, tu ne comprends pas toute l'histoire qu'il y a eu avant, même si c'est des affaires qui datent de 3 puis 4 siècles, ça a encore des conséquences aujourd'hui sur la manière dont les gens vivent et la manière dont les gens pensent aussi. Alors, le deuxième point qu'on va regarder, c'est la présence protestante dans les colonies. Alors, l'Église anglicane s'est établie comme Église d'État en Caroline du Sud en 1706, en Géorgie en 1758 et en Caroline du Nord en 1765. Un fait remarqué concernant cette affaire-là, c'est qu'on sait que les Anglicans étaient pour l'Église d'État en Angleterre. Alors, bien sûr, ils ont pris leur modèle, puis quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont voulu établir le modèle anglican dans ces colonies-là, là, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Mais on sait qu'en même temps qu'eux autres, ils ne sont pas tout seuls, ils sont arrivés aux États-Unis, aux futurs États-Unis, il y avait aussi ce qu'on appelait les non-conformistes. Alors, c'était les Puritains qui étaient arrivés sur le fameux navire Mayflower en 1620. Eux, bien entendu, cherchaient un refuge pour vivre librement leur foi et également fuir la persécution du roi d'Angleterre, Jacques Ier. Alors, ils sont arrivés au Massachusetts en novembre et ont survécu au dur hiver. J'imagine un groupe d'hommes qui arrive en novembre et au Massachusetts, parce qu'on sait un petit peu que le Massachusetts, c'est une température similaire à la nôtre, s'établir là, tu es obligé de couper des arbres, de monter des maisons en bois rond, juste la première hiver, là. Ils ont dû perdre énormément de monde, alors ils ont quand même un bon nombre survécu à cela. Alors, le 1er janvier 1621, William Brewster conduisit leur premier rassemblement d'adoration publique à New Plymouth. Alors, on remarque qu'ils prennent toujours des noms d'Angleterre, New Plymouth, New York, New Amsterdam. Alors, ils prennent leurs racines en Europe et ils prennent un nouveau nom ici. Même New England, les États de la Nouvelle-Angleterre. New England, c'est comme... Ils veulent emmener leur pays avec eux. Ils leur donnent même les noms des villes, suivent. Alors, de nombreux autres croyants, bien entendu, arrivèrent sur les côtes est du pays. En 1628, ils s'établirent à Salem, dans la Massachusetts. On a tous entendu parler du fameux village de Salem avec son procès des sorcières et tout ça. C'est là que ça se passait. En 1640, 20 000 personnes vivaient dans les environs. En moins de 10 ans, 33 assemblées chrétiennes existaient au Massachusetts seulement. Alors, bien entendu, il y a eu d'autres communautés qui n'ont pas tardé à venir s'établir dans les différentes colonies d'alors. Alors, au moment, ce n'était pas encore des États, ça s'est formé lentement, État par État, jusqu'à former les actuels États-Unis. Alors, les épiscopaliens, eux, se sont établis principalement en Virginie, au Massachusetts, en Caroline du Sud et en Géorgie. Les catholiques, surtout au Maryland et en Floride. On a vu tout à l'heure que quand ils sont arrivés, il y avait des protestants en Floride, ils ont pendu. Alors, les tensions catholiques protestants ne se sont pas éteints à cause qu'ils ont changé de continent, comme on dit. Alors, et quand on regarde aujourd'hui, le Maryland, c'est encore la prédominance catholique. Alors, les affaires qui s'établissent, des fois, dans les années 1600-1700, ça a encore une incidence sur l'histoire moderne. Tu sais, c'est des choses qui se sont établies dès les débuts, mais qui, à fin de compte, ont fini par s'installer dans le pays des États-Unis. Ce qu'on a appelé les Dutch Reform. Les Dutch Reform, c'est les réformés hollandais. Alors, les réformés hollandais, eux, se sont établis principalement à New York. Et avant de porter le nom de New York, c'était le nom de New Amsterdam. Alors, c'est la ville de New York a été surtout fondée par les Dutch Reform. Et ils se sont établis là et également au New Jersey. Les Baptistes, eux, se sont établis au Rhode Island. Quand on dit « se sont établis », là, on parle de noyaux importants. Bien sûr, il peut y avoir des baptistes qui se sont établis ailleurs. On parle d'installation importante d'un bon groupe. Il y a un autre groupe qu'on a vu leur histoire en Europe, qui sont arrivés aussi aux États-Unis, les Moraves. Alors, on voit que les États-Unis, dès leur fondation, les colonies avaient un fort pouvoir d'attraction pour attirer les gens qui voulaient vivre leur foi de façon libre. C'était qu'est-ce qui... Ils fuyaient l'Europe parce que l'Europe, ils n'étaient pas reconnus pour leur tolérance. Alors, ils voulaient vivre dans un pays où il y avait de la liberté. Alors, c'est la raison pour laquelle on voit tant de monde arriver et qui s'installe un petit peu partout aux États-Unis. Bien entendu, vous avez sûrement déjà entendu parler des Quakers. Les Quakers en Pennsylvanie. Les Quakers, ce serait comme l'équivalent qu'on pourrait dire des pentecôtistes modernes. Pourquoi on les appelait Quakers? Parce qu'il y avait des manifestations corporelles de l'esprit que eux affirmaient, en tout cas, en Pennsylvanie. Alors, les Quakers, je me souviens quand j'étais jeune, on avait des boîtes de gruyot. Puis il y avait un monsieur qui était photographié sur la boîte avec un chapeau, un gros chapeau. C'était un Quaker. Alors, ces affaires-là, ça ne date pas d'hier. Puis les Mennonites, bien entendu, eux, se sont installés aussi en Pennsylvanie. Alors, on voit que la plupart des grandes dénominations qu'il y avait en Europe commençaient aussi à venir s'établir aux États-Unis. Alors, d'importantes institutions d'enseignement furent fondées. En 1636, le Harvard College à Cambridge, Massachusetts. Imaginez-vous, une des institutions d'enseignement les plus prestigieuses du monde était fondée par des chrétiens en 1636. Et aussi en 1701, le Yale Collegiate School au Connecticut, alors la fameuse université Yale aussi, qui sont des institutions de niveau international et de très haut niveau. On n'entre pas là qui veut, comme on dit. Troisième point, on voit l'influence de l'Église hollandaise réformée, les fameux Dutch Reform. Alors, les Dutch Reform fondèrent deux postes de commerce. New York et le Delaware. Alors, Peter Minuit fut le premier gouverneur entre 1580 et 1638 du New Netherlands. Alors, lorsque Peter Stu Vincent était gouverneur, la colonie fut capturée par les Anglais et fut renommée New York. Alors, on voit, les Hollandais ont fondé New York, mais éventuellement, les Anglais ont venu, se sont battus, ont pris le contrôle. Et, comme de raison, le nom a changé. Ce n'était plus Nouvelle-Amsterdam, c'était maintenant New York, qui était une référence à une région d'Angleterre. Alors, 4 ans après le synode de Dort, les doctrines de la grâce souveraine furent proclamées aux États-Unis. Alors, on vient de voir ça récemment dans nos études sur les doctrines de la grâce, au synode de Dort. Alors, bien entendu, les décisions qui avaient été prises en Hollande, quand ces gens-là ont venu s'établir aux États-Unis, bien entendu, ils ont emmené les décisions avec eux et les croyances avec eux. C'est important de voir d'où les mouvements modernes sortent. Alors, John Van Mecklenburg, c'était des noms un peu difficiles à prononcer pour nous, a pris la langue des Mohawks et ce fut le premier missionnaire aux Indiens. Alors, à l'époque, souvent, on considérait les Indiens comme c'était un peu comme les Blancs considéraient les Noirs au début. Ils considéraient un petit peu, c'est tout juste qu'ils considéraient comme des êtres humains. Alors, ça prenait quand même des gens, des visionnaires, pour voir que ces gens-là étaient des êtres humains, comme nous autres, et qu'il fallait leur amener la lumière de l'Évangile. Alors, à cette époque-là, tu as donné la peine d'apprendre une langue d'Indien et d'aller vers eux pour leur annoncer l'Évangile. C'était quand même des gens courageux. Maintenant, le quatrième point qu'on va regarder, bien entendu, on regarde ces choses-là d'une façon très, très, très superficielle, mais c'est juste pour donner une idée des principaux courants qui ont contribué à fonder les États-Unis. Maintenant, les baptistes. Les baptistes ont eu une influence très importante dans la fondation des États-Unis. William Rogers, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bonhomme. Quand j'ai étudié à l'école biblique, on nous obligeait à étudier l'histoire des baptistes, une grosse brique. Et William Rogers, c'est vraiment un personnage important dans le développement de la pensée baptiste aux États-Unis, mais ça lui a coûté très cher, comme on va le voir. Alors, lui est arrivé, il a vécu entre 1603 et 1683. Alors, pour l'époque, il a vécu très vieux. Il est arrivé à Boston en 1631 et a voulu établir le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Et on sait que déjà, il y avait des gens qui étaient déjà arrivés, puis que pour eux, il fallait que ce soit l'État qui mène la religion. Alors, si toi, tu arrives, puis tu commences à dire que tu es contre ça, que tu voudrais que ce soit deux choses complètement séparées, bien entendu, ça crée des conflits. Alors, l'opposition fut immédiate et il fut banni. Alors, banni, ça voulait dire qu'il fallait que tu sortes du territoire dans lequel tu es, peu importe la saison, même en plein hiver, et il fallait que tu te pousses, c'était considéré comme, on dit un banni, c'était pas drôle. Alors, il a été banni avec la défense de prêcher, l'interdiction de prêcher contre le baptême des bébés et pour le baptême par immersion. Alors, puisqu'il était baptiste, bien entendu, il devait prêcher le baptême par immersion. Et là, il était banni avec ces trois défenses-là. Non seulement il ne pouvait pas prêcher, mais il était sorti du pays, l'interdiction de prêcher contre le baptême des bébés et interdiction de prêcher le baptême par immersion. En 1635, on voit que les vieilles habitudes anglaises, leur façon de se comporter en Angleterre, ils ont un petit peu importé leur manière d'agir, même sur le nouveau continent. Alors, le général Court, qui s'appelait, le condamné comme hérétique. Imaginez-vous, entre chrétiens, se condamner comme hérétique, c'est comme particulier un petit peu, là, surtout des protestants. Condamné comme hérétique et pour sédition. Alors, pour eux, sédition, normalement, c'est une rébellion contre le gouvernement. Mais eux considéraient qu'à cause du fait qu'ils prêchaient la séparation de l'Église et de l'État, qu'ils étaient séditieux. Ils étaient complètement faux. Mais, tu sais, rien que pour dire la mentalité de l'époque. Alors, il fut banni en plein hiver parce qu'il avait persisté à prêcher. Alors, il fut considéré comme un homme dangereux et dut quitter sa femme et ses deux enfants. Il dut se battre, bien entendu, si tu te fais bannir l'hiver. On sait que dans... On sait comme si quelqu'un serait banni ici au Québec en plein hiver, pour qu'il survive 14 semaines, c'était miraculeux, vraiment, le cas de le dire. Alors, il a dû se battre pour survivre pendant 14 semaines. Bien entendu, 14 semaines, c'est le temps de l'hiver, jusqu'à temps qu'arrive le printemps. Alors, par la providence de Dieu, il fut recueilli par les Indiens Narragansett. Il avait pris le temps d'apprendre cette langue avant d'être banni. Il s'était également opposé à la prise des terres des Indiens sans un paiement juste. Pour ces raisons, les Indiens l'aidèrent. Alors, un moment donné, les Indiens ont dû le rencontrer quand il, dans son voyage. Et il devait se souvenir qu'il avait pris pour eux, puis il connaissait la langue. Alors, pendant 14 semaines, ils l'ont protégé, sinon il serait mort carrément de froid dans la nature. Alors, à l'été, en juin 1636, William put acheter des Indiens un territoire sur ce qui allait devenir le Rhode Island et établir la ville de Providence. Alors, la fameuse ville qui s'appelle Providence, c'est parce que lui était conscient que sa survie était due à la providence de Dieu, et la ville porte le nom de la raison pour laquelle était fondée. Alors, il a quand même pu acheter des Indiens un territoire où il a pris son argent. Là, il faudrait lire l'histoire un petit peu plus en détail. Bon, les gars, ce qui allait devenir le Rhode Island moderne. Alors, son ancienne congrégation ont probablement su, ils communiquaient quand même, ils voyageaient, même si c'était à pied ou en cheval. Alors, une charte fut obtenue de l'Angleterre en 1643. Il semble qu'à l'époque, les gens considéraient encore, reconnaissaient l'autorité de l'Angleterre sur l'attribution des territoires, parce qu'à partir du moment qu'ils sont devenus indépendants, ils ont pu demander à l'Angleterre de leur donner des documents. Alors, William servit de premier président à la nouvelle colonie. Des lois furent votées par la Bay Colony pour interdire les idées de William en les considérant comme des troublemakers, des hérétiques comme les anabaptistes. Alors, bien entendu, quand ils ont vu, là, ils ont voulu le considérer comme, même s'il a réussi à survivre, à s'installer, la Bay Colony, c'était vraiment, ils ont voulu chercher à limiter le développement de ses idées. Alors, en disant que c'était des troublemakers, que c'était des hérétiques, que c'était des anabaptistes, et il essayait de convaincre les autres chrétiens qui étaient là Ouais, c'est ça. Alors, William lui-même fut rebaptisé. Alors, il était baptiste, mais il était rebaptisé. Alors, la première église baptiste était fortement implantée. D'autres églises baptistes furent promues. D'autres idées baptistes furent promues. Bien entendu, celle-là, il la défendait déjà, la séparation de l'Église et de l'État. Donc, l'idée que ce n'est pas à l'État à nommer les évêques, ce n'est pas à l'État à dominer sur le cours de l'administration des Églises. Alors ça, là-dessus, il y a un principe qui tenait fort et il avait raison. La liberté de conscience aussi, ça vient vraiment de William Rogers, a vraiment beaucoup promu cette idée-là que même si on est chrétien, on ne peut pas imposer, à part que, disons, certaines doctrines qui sont tellement fondamentales que tu ne peux plus considérer quelqu'un comme chrétien s'il n'adhère pas à cela. Mais dans l'ensemble des autres doctrines, là, il a vraiment promu une certaine liberté de conscience, une certaine façon, liberté d'interpréter. Alors, c'était moins rigide, si tu veux, qu'à l'époque de ce qui se passait en Angleterre, par exemple. Et aussi, l'autre principe, c'était la non-obligation d'être membre de l'Église pour voter dans les affaires civiles. Alors, dans une Église, des fois, il y a des affaires qui sont de nature religieuse. D'autres affaires qui sont plus de nature civile. Alors, il disait, pour les affaires de nature civile, même si quelqu'un n'est pas membre, on peut le laisser voter. C'était quand même, il y avait un esprit, on voit qu'il y avait quand même un esprit démocratique. Alors, Mais à cette époque-là, il y avait quand même d'autres mouvements religieux qui se développaient à Rhode Island. Alors, le Rhode Island a accueilli la première synagogue juive et les premières assemblées Quaker. Alors, les églises baptistes, bien entendu, se sont répandues. En 1707, la première association d'églises baptistes se forma à Philadelphie. Elle s'appelait la Baptist Association of America. En 1742, ils ont adopté une confession de foi calviniste. À sa mort, en 1683, William Rogers savait qu'il léguait un précieux héritage à la nation naissante, la séparation de l'Église et de l'État et la liberté de culte. Autrement dit, vois-tu, il arrivait des Juifs, il arrivait des Quakers, et s'il y avait eu la vieille mentalité d'Angleterre, vu que c'était lui qui était le président du Rhode Island, il aurait dit non, tu ne viendras pas faire ça ici. Il les aurait exclus, bannis. Tandis que là, il introduisait un principe américain. Pourquoi aux États-Unis, aujourd'hui, il y a quand même de la tolérance? Si tu compares ça avec l'Angleterre, de l'époque, c'était énorme. Alors, bien entendu, le catholicisme aussi est arrivé, a fait son introduction dans le Nouveau Monde. Alors, en 1632, le Maryland fut donné à George Calvert et à ses descendants. Imaginez-vous, à cette époque-là, tu pouvais donner un État à un homme et à sa famille. Alors, le nom de Maryland fut adopté pour rappeler deux choses. Mary, la femme du roi, et Mary, la mère de Jésus. Alors, le Maryland porte le nom à la fois de la femme du roi d'Angleterre et à la fois de Mary, mère de Jésus. Aujourd'hui, même encore aujourd'hui, Maryland existe encore, avec le même nom qui avait été donné à l'époque. Alors, peu de catholiques, à cette époque-là, étaient disposés à aller s'établir dans les colonies à cause des rigueurs du voyage, bien entendu, juste dans le voyage de bateau. À partir d'Angleterre, quand on est aux États-Unis, il y avait des... J'ai pas de pourcentage, mais c'était très fort comme pourcentage. Moi, ça durait 3 mois, alors les gens étaient malades, les gens y jetaient par-dessus bord, il y avait toutes sortes de maladies. Alors, l'Assemblée du Maryland a quand même adopté, en 1649, ce qu'ils appelaient l'Act of Toleration. Donc, c'était quand même une tentative de chercher à limiter les guerres de religion. En 1692, la famille perdit le contrôle du territoire et fut retournée à la couronne. Alors, la religion catholique dans cet État-là devint la religion établie au Maryland. Maintenant, on va parler, sixième point, les Quakers, un petit peu, leur courage. Alors, les deux premières femmes Quakers qui arrivèrent dans les colonies furent Mary Fisher et Anne Austin. À leur arrivée à Boston, elles furent emprisonnées pour 5 semaines et durent subir des indignités et des déprédations. Déprédations, ça veut dire des dommages matériels causés aux biens d'autrui. Alors, autrement dit, ils ont fait du trouble à leurs biens. Et ils ont fait du trouble à leur personne aussi. Imaginez-vous, emprisonner des femmes parce que tu n'es pas de la même religion. Alors, on voit qu'il y avait encore la vieille mentalité d'Europe qui les suivait. Là. Alors, ils furent, imaginez-vous, ils étaient tellement tolérants qu'après avoir fait 5 semaines en prison, ils ont remis sur un bateau pour les retourner en Angleterre. Mais c'est pas terminé là. D'autres sont arrivés. Là, il y a eu des lois qui ont été votées. Et pour démontrer à quel point ils étaient sévères à l'époque, lorsqu'ils étaient bannis, s'ils revenaient, ils étaient passibles de la peine de mort. Alors, on jouait pas à cette époque-là. Là. S'ils te bannissaient puis tu revenais, ils finissaient d'en finir avec toi. En 1681, William Penn se vit octroyer la Pennsylvanie et lui fit preuve de tolérance. Alors, bien entendu, tout ça, ça a amené une diversité religieuse et l'établissement de certains principes qui ont permis que les États-Unis se développent avec une mentalité différente de celle du vieux continent. Alors, William Penn a accueilli, lui, des luthériens, des moraves et des mennonites et des réformés allemands et suisses. Alors, on voit que William Penn, On ne peut pas être d'accord avec ce qu'ils pensent, ce qu'ils enseignent, mais quand même, il y avait une certaine façon d'accueillir les gens, même si c'était de d'autres religions, ils les laissaient vivre quand même. Alors ça, c'était des choses qui ont contribué à ce que les États-Unis partent sur un pied un petit peu plus libertaire qu'en Europe. Alors en 1719, des baptistes allemands sont arrivés, ils appelaient les Dunkers. Alors Christopher Sauer fut le premier imprimeur allemand en Amérique. Il a imprimé The Sauer Bible, qui fut la première Bible en Amérique à être imprimée dans une langue européenne autre que l'anglais. Alors puis arrivèrent les presbytériens en 1683 avec Francis McKemie et en 1710 David Evans. Pour eux, un événement important fut le Adoption Act en 1729 qui obligeait les ministres presbytériens à adopter la confession de foi Westminster Confession of Faith. On sait que c'est 1646. Alors oui, déjà, il s'établissait certaines règles de fonctionnement dans certains milieux. Les presbytériens, si tu voulais devenir ministre, il fallait que tu adhères à la 1646, sinon tu ne devenais pas un ministre presbytérien. Alors bien entendu, cette décision-là qu'ils ont prise à l'époque a eu un impact important sur le développement du pays. Puis arrivèrent les méthodistes avec Philip Embury en 1766. Francis Ashbury vit cette église croître de 15 000 à 200 000 en 1771. Comme Wesley, il parcourait 4 000 milles par année à cheval et il prêcha plus de 20 000 sermons dans sa vie. Alors, fort probablement qu'il avait lu la biographie de John Wesley, qui en était fortement impressionné, fortement influencé. Alors, il a cherché à établir sa façon de fonctionner, faire de la prédication à cheval. 20 000 sermons au cours d'un an, là, c'est quelque chose de 8 à 10 sermons par semaine. Alors, c'était des gens qui étaient zélés pas à peu près. Alors, les États-Unis démontraient qu'il était possible de vivre en tolérance sans plonger le pays dans la guerre civile religieuse. Alors, le dernier point qu'on va regarder, c'est les raisons pour lesquelles l'Amérique n'a pas établi le principe de l'Église d'État. Parce que si ça avait été établi, c'est sûr que la guerre aurait repris. Alors, les raisons sont les suivantes. Premièrement, c'était à cause de la grande variété de l'immigration aux États-Unis après 1690. En 1760, il y avait 2 500 000 personnes aux États-Unis. Alors, la grande variété de l'immigration. La deuxième raison, c'est que les nouvelles colonies, ils s'étaient formés comme des pays en soi. On dit les États-Unis, c'est parce que le Maine, le Vermont, le Manchester, le New Hampshire, tout ça, c'est comme un pays. Et pourquoi ils se sont réunis éventuellement pour appeler United States of America? Donc, c'est l'ensemble de toute une série de pays qui se sont unis pour devenir un pays avec un niveau de gouvernement un peu comme fédéral ça, bien entendu, si tu voulais établir un système comme ça et unir les 50, il n'était pas 50 à l'État, mais à l'époque, je pense qu'il était à 13 pour débuter. Alors, pour débuter, ça prenait quand même une certaine collaboration politique. Alors, si tu veux collaborer pour former une certaine unité dans l'union politique de tous ces pays, de tous ces pays-là, entre guillemets, bien entendu, il fallait que tu collabores. Alors, si ça aurait été un système qui aurait été fortement contrôlé par une église d'État, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis n'ont pas eu d'église d'État. La troisième raison, c'est très certainement à cause des grands réveils religieux qui sont arrivés à cette époque-là, avec des prédicateurs comme Jonathan Edwards et George Whitefield. À partir de la semaine prochaine, on va faire une série probablement de 3, 4, 5, peut-être 4, 5 leçons sur les réveils américains. C'est pas juste américain, c'est un petit peu partout sur la Terre, mais les Américains, on va les regarder d'une façon particulière, parce que ça a eu une très grande influence sur le développement des États-Unis. Particulièrement Jonathan Edwards et George Whitefield, qui ont passé, en tout cas, pas Jonathan Edwards, parce qu'il est resté pas mal tout le temps dans le Connecticut, mais George Whitfield, lui, à l'époque, il a voyagé dans à peu près toutes les colonies de l'époque, jusqu'en Georgie, qui était dans le sud, et il prêchait à d'autres chevals, lui aussi, et il a eu une énorme influence. Mais c'était le Seigneur qui permettait qu'il y ait un réveil aux États-Unis qui était très, très, très important. Il y a eu une multitude de conversions à cette époque-là, et ça a eu un grand effet sur le développement religieux américain. Quatrième raison, c'est qu'il y avait un esprit individualiste et le déplacement de la population de l'Est vers l'Ouest. Qui n'a pas déjà vu des films quand ils ont parti puis ils ont découvert l'Ouest et se sont en allés vers l'Ouest? Alors, ils sont arrivés sur la côte Est, mais il y a eu un mouvement à un moment donné où que, il y a eu un mouvement de population qui se sont en allés, une très grande partie se sont en allés vers l'Ouest, vers la Californie, tout ça. Alors, il y a eu toutes les États qui sont à l'Ouest ont été formés, mais encore là, tout ça, ça faisait en sorte que ça contribuait à garder une certaine unité entre eux. Il y a eu aussi, bien entendu, les sociétés philosophiques avec les leaders comme John Locke et Thomas Jefferson. Ce n'étaient pas des chrétiens, mais c'était des personnes qui ont quand même amené des idées politiques qui étaient plus des idées modernes si on les compare en Angleterre, aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais en Europe en général. C'était quand même des personnes qui ont voulu établir des principes comme de démocratie, etc. Alors, ils ont quand même beaucoup contribué comme philosophes à asseoir ces principes-là. La sixième, c'était la nomination d'évêques par les Anglicans. Alors, les Anglicans, ils ont gardé leur système qu'il y avait en Europe de nommer les évêques, et ça, ça a provoqué des oppositions de la part des congrégationalismes et des presbytériens. Alors, tout ça, ça crée en sorte que le Seigneur contrôlait tout ce qui se passait de manière à établir une société qui était un petit peu moins dure que celle d'Europe. Alors, les colonies adoptèrent graduellement des législations séparant l'Église de l'État. Et la dernière colonie qui l'a faite, ça a été le Massachusetts en 1833. Alors, ça y a pris du temps de masse avant d'adopter ce principe-là. Alors, quelles sont les quelques applications qu'on peut faire à partir de cette brève étude? La première, rendons grâce au Seigneur d'avoir donné des leaders de l'époque d'adopter, de défendre et de promouvoir la tolérance religieuse et la séparation de l'Église et de l'État. Ça a l'air de rien, mais ces personnes-là qui ont payé cher ont établi certains principes qui, même encore aujourd'hui, demeurent en place. La deuxième application, apprenons aussi que l'intolérance est aveugle et cruelle. Des gens sont emprisonnés, pendus, bannis de leur pays et condamnés à mort à cause de leurs convictions religieuses. Alors, on voit qu'il y a des choses qui se passaient qui étaient très positives, d'autres qui se passaient qui étaient juste une continuation de ce qui se pratiquait déjà en Europe. Troisième application, voyons la main de Dieu dans le développement de l'histoire des États-Unis. Une nouvelle façon de vivre fut développée. Une société fondée sur la foi en Dieu, la tolérance et la liberté de culte, la collaboration politique des colonies, la démocratie, etc. Que le Seigneur nous donne de conserver les valeurs de la foi en Dieu, de la tolérance et de la liberté, pour sa grâce et pour sa gloire.
Amen.
Amen.